Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode de cette série. Au micro pour témoin, intervenant, c'est le directeur des éditions du Carmel au couvent de Toulouse que je reçois. Bonjour frère Baptiste Sauvage.
Bonjour.
Alors c'est un quatrième jour.
Oui.
Quatrième jour qui dit livre, dit aussi quatrième livre avec petite couverture.
Oui.
Un petit livret pratique, hein, un livre de poche.
Hein, exactement.
Qu'on peut prendre partout avec un thème, celui-ci peut-être particulier.
Oui.
Donc, peut-être à offrir à certains frères prêtres, curés en paroisse hein, ou des fidèles laïcs qui sont particulièrement
en mission oui,
et diacres. Ce livre s'intitule « Exorcisme et prière de délivrance ». Donc c'est un outil qui est simple mais précis. Il est présenté ainsi pour permettre aux prêtres, diacres et agents pastoraux d'exercer un ministère de délivrance en collaboration, bien sûr, faut pas oublier, en collaboration avec les prêtres exorcistes qui sont nommés dans les diocèses.
Exactement.
Alors, comment, voilà, quel est l'objet de ce petit livre ? Voilà, présentez-nous en quelques mots ce petit livret.
Oui, alors l'objet est pastoral, hein, c'est-à-dire qu'il y a, on pourrait dire, un manque de formation sur ces questions qui, selon le constat de l'auteur, pourrait aboutir en tout cas à deux dérives. La première, ce serait de faire comme si le combat spirituel n'existait pas, comme si nous n'avions pas justement, comme disent les Écritures, à mener ce combat contre les esprits des ténèbres. Hein. Donc, et donc nous réduirions notre champ de compréhension de la vie chrétienne à son horizon simplement naturel. Et le deuxième écueil, ce serait de tout analyser à travers, évidemment, le spectre démoniaque, auquel cas on pourrait en arriver à des dérives et même parfois à des attitudes ubuesques ou complètement déplacées. Et donc, ce petit livret vient mettre de la clarté dans ces questions qui sont obscures en donnant des critères de discernement pour essayer de guider les prêtres, les diacres, les agents pastoraux en leur montrant justement quand est-ce qu'il convient de faire ce genre de prière. Le livret n'aborde pas les questions liées à l'exorcisme au sens strict, c'est-à-dire le grand exorcisme réservé à l'évêque ou alors au prêtre exorciste délégué par lui. Le livret aborde plutôt justement ces prières que récemment on appelle prière de délivrance, mais qui à l'époque étaient appelées des exorcismes privés. Alors faut, là aussi, hein, je pense que ce livret a le mérite de dégonfler, on pourrait dire, la baudruche ou d'apaiser les fantasmes qu'on pourrait se faire autour d'eux. Ce sont des prières usuelles qu'on a toujours faites, par exemple, avant le baptême. Il y avait une prière pour demander que le catéchumène soit libéré de l'emprise des esprits mauvais, eh bien ces prières peuvent être faites aussi à l'occasion, selon certains critères, et toujours dans un climat de foi, de recueillement et de paix. Et c'est vers ce genre-là de climat que ce petit manuel oriente ses lecteurs, justement pour favoriser l'œuvre du Christ, l'œuvre de la lumière, l'œuvre de la paix. Voilà. Et donc, il y a une explication simple au début qui redonne les grandes pistes en reprenant les éléments du magistère et des exemples de prières à la fin pour conduire ce genre de prière.
Alors, dans la table des matières, on parle de l'onction des malades. Vous avez parlé aussi de la prière de délivrance. Et il y a un petit chapitre aussi sur la prière de guérison. Alors, qu'est-ce qui distingue, frère Baptiste, vous qui êtes religieux, carme et prêtre, qu'est-ce qui distingue la prière de guérison de la prière de délivrance ?
Alors déjà, je pense qu'il faut faire une distinction avant et que l'auteur rappelle justement à la fin de sa présentation pastorale, catéchétique, hein, c'est que justement ces prières, délivrance, guérison ou quelque autre nom qu'on leur donne ne sont ni des sacrements, donc c'est-à-dire que ça n'a pas d'équivalent avec le baptême. Ça peut être, bien sûr, être vécu en complément ou en accompagnement, par exemple, de l'onction des malades. Hein. Mais ce n'est pas un sacrement. C'est pas une prière.
C'est important de le dire. Oui, oui.
Donc, il ne faudrait pas avoir justement de réflexe magique à l'égard de ce genre de prière. Ce sont des prières d'intercession, comme on peut en faire spontanément, mais qui sont plus guidées parce que les sujets sont peut-être plus sensibles ou ont besoin de davantage d'éclairage. Donc, ce n'est ni un sacrement et ce ne sont pas non plus des sacramentaux. C'est-à-dire que on n'est pas dans le même cadre, par exemple, que une prière pour bénir de l'eau, pour l'eau bénite, par exemple, ou la prière d'imposition du scapulaire, parce que les sacramentaux sont des prières dont l'efficacité est portée par toute l'Église. Et là, ce sont des prières simples que tout baptisé peut faire, hein, selon des critères qui sont exposés dans cet ouvrage, et qui reposent sur la foi de ceux qui prient. Donc, c'est-à-dire que on pourrait dire que les fruits de grâce seront proportionnels à l'éveil de la foi de ceux qui prient. Donc, c'est pour ça que l'auteur termine en disant qu'il ne sert à rien de rabâcher ou de faire de grandes cérémonies impressionnantes. Si ces prières sont traumatisantes, c'est qu'elles sont mal faites. C'est-à-dire qu'elles doivent vraiment être baignées dans un climat de paix, de foi, d'onction, et ceux qui en ressortent doivent normalement tout de même en éprouver justement les bienfaits, la présence du Christ au milieu d'eux. Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là.
Alors, quels sont les signes justement visibles après de telles prières,
hein, évidemment,
et les conséquences,
ça, bien voilà. Sûr, ça dépend beaucoup des gens et ça dépendra du discernement qui est fait auparavant. Par exemple, une prière de délivrance n'a de sens que si des éléments objectifs ont été mis en lumière pour mener ce genre de prière. Donc, par exemple, si quelqu'un a côtoyé des milieux ésotériques ou d'une manière très claire à employer certains éléments, comme, je ne sais pas, dans une réunion où l'on fait tourner des tables, etc. Effectivement, là, il y a des critères qui sont objectifs et qui peuvent légitimer, peut-être, effectivement, de prier le Christ pour que toute influence des esprits mauvais puisse être dissipée. Et en cas, peut-être, d'atteinte plus forte, de renvoyer la personne vers l'exorciste diocésain. Voilà. Donc, voilà des critères objectifs qui vont légitimer ce genre de prière. Et si effectivement la personne a eu recours à ces éléments plus ésotériques ou ténébreux, il est normal de s'attendre à ce que la lumière du Christ vienne faire son œuvre et qu'elle puisse en éprouver les bienfaits par une certaine libération, justement, de ce poids qui pouvait encore l'opprimer.
Alors, dans toujours cette table de matière, on parle de prière. Il y a la prière du père de ce grand exorciste qui est décédé depuis, mais qui a écrit des ouvrages. Grand exorciste du Vatican, le père Amorth. Deux mots sur le père Gabriel Amorth, frère Baptiste.
Mais je crois que c'était quelqu'un de tout à fait réputé ou recommandé.
Et grand exorciste.
Hein, c'est
voilà.
Ça.
Donc,
oui.
Il est recommandé par... ce frère Carme Deschaux qui reste anonyme, pour quelle raison, frère
Baptiste? Parce qu'il est lui-même exorciste et préfère rester discret.
Pourquoi faut-il rester discret quand on est exorciste?
Justement, je pense qu'il se méfie de cette publicité qui pourrait être faite, qui rend la chose extraordinaire, alors qu'en réalité, il s'agit d'un ministère de l'Église confié par l'évêque, et donc il ne s'agirait pas d'en présenter le côté clinquant ou impressionnant.
Le côté surnaturel.
Oui, c'est ça. Merveilleux,
un peu magique.
Exactement,
voilà.
Oui. Donc, il préfère justement avoir cette discrétion qui permet d'exercer ce ministère dans la paix.
Quelles sont les qualités requises pour exercer ce ministère, au fond, d'exorciste et de délivrance?
Un esprit de foi, de prudence, de discernement, justement pour faire cette part qui revient aussi au psychologique et au spirituel, donc du bon sens aussi.
Une vie de prière.
Hein, une vie de prière, bien sûr. Oui. Hein. Être porté par une communauté, c'est pas rien. Et cet esprit d'obéissance aussi, hein.
Qu'est-ce qui l'a motivé pour écrire ce petit livret, qui est aussi un bon résumé de toutes ces prières de délivrance autour du thème de l'exorcisme?
Je crois que c'est vraiment une intention pastorale, c'est-à-dire donner des critères clairs pour tous ceux qui sont un peu perdus quand il est question justement de ce ministère de délivrance. De quoi est-il question? Qu'est-ce qui relève de l'exorcisme diocésain? Qu'est-ce qu'un prêtre peut aussi assumer en vertu de son sacerdoce? Qu'est-ce que les chrétiens, les fidèles, les baptisés peuvent aussi exercer comme prière d'intercession, de supplication pour leurs frères?
Je vous demandais très simplement de choisir et de terminer avec l'une de ces prières que je vous laisse vraiment choisir, frère Baptiste Sauvage, avec donc ce livre, un petit livre, ouvrage précieux qui s'emporte partout, que l'on peut offrir à un ami prêtre, à un curé de paroisse, ou quelqu'un qui est engagé dans une activité et un ministère autour de cet accueil et ce discernement. Et merci, on vous retrouve demain pour une dernière présentation d'un tout nouvel ouvrage, toujours aux éditions du Carmel.
Eh bien, je termine juste avec ce bref, la prière porte bien son nom, hein, le bref de saint Antoine. Voici la croix du Seigneur, fuyez, puissants ennemis. Il a vaincu le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David.
Merci, frère Baptiste Sauvage, à demain.